à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 5 mars. Voilà, premier mug du mois de mars, mais non, puisque vous avez eu Jérôme vendredi. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. On va parler actualité tech ce matin. Je suis Marion et ça va bien se passer ce matin. Donc, je vous propose tout de suite générique. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ce matin, je suis Marion et on va parler actualité tech ce matin. Je regarde un petit peu qui nous a rejoint dans le chat. Salut Valalex, salut Grolb, salut Indy76, salut Yves, salut EA Chronicle, salut Nicolito. A priori que tu as un petit problème de son parce que ça a l'air de marcher pour les autres, donc j'espère que tu vas pouvoir m'entendre, mais... Pas de panique, je dis bonjour pour l'instant, donc c'est pas très intéressant. Un grand merci à Powerloutre pour ton soutien, un grand, grand merci et bonjour à toi. Salut Etiliat, salut Pierre Houtsa, salut Vlad Jeziane, salut Mania Simu, salut MMG7F, salut Nounix. Alors, le volume est bas, vous me dites que le volume est bas. J'avoue que j'ai un peu peur. Oui, voilà. Hop, je vais essayer de le monter un peu. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je l'ai un petit peu augmenté. J'espère que ça va mieux. Bon, le volume est normal, on me dit. Bon, je l'ai un tout petit peu augmenté au cas où. Mais voilà. En tout cas, bonjour à tous. De quoi va-t-on parler ce matin? On a pas mal de petits sujets, pas mal de grosses news qui sont tombées quand même hier. Avant de commencer à parler sommaire, on va quand même vous faire une petite annonce ce matin, juste pour vous informer que la semaine prochaine, il n'y aura pas de mug exceptionnellement. Il se trouve qu'on a des déplacements et tout, et ça va être trop galère de faire l'émission en déplacement. Et on est en fait en vacances, donc on va le dire comme il faut aussi. Donc on ne sera pas disponible pour faire le mug, donc attention, vous êtes prévenus, pas de mug ni mardi, ni jeudi, ni vendredi. On se retrouvera la semaine suivante aux horaires habituels, pas de panique. J'en profite pour dire un grand merci à Jetrus pour son soutien ce matin. Un grand, grand merci à toi. Et oui, à tout homme, on est bien en direct sur YouTube en simultané. Donc, tu peux nous retrouver au choix, soit sur YouTube, soit sur Twitch. L'intérêt de Twitch, c'est qu'on peut voir tes commentaires, ce qu'on ne fait pas sur YouTube. Ça serait trop galère de suivre les commentaires sur deux plateformes différentes. Pas de jeudi contributeur non plus, a priori Yves, pas de jeudi contributeur non plus la semaine prochaine. Donc cette semaine, rien ne change. La semaine prochaine, pas de jeudi contributeur, pas de mug. On vous retrouvera la semaine suivante. Voilà. Donc vous êtes prévenus. On vous fera peut-être un petit tweet si on arrive à y penser pour vous rappeler l'information. Mais voilà. Donc, important à se rappeler. Mais de quoi va-t-on parler ce matin? On va parler de plein de sujets assez cool, assez intéressants, notamment la société américaine Palantir qui essaye de faire les yeux doux au service public européen. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un acteur américain qui gère nos services publics européens? C'est une vraie question et il se heurte notamment à pas mal de difficultés justement sur le sujet. On parlera évidemment d'Apple ce matin et sur plusieurs sujets, on parlera d'Apple. On commencera avec les annonces de nouveaux produits qu'ils ont partagés hier avec des nouveaux MacBook Air notamment. Donc on reviendra dessus. On reviendra également évidemment sur l'amende record que l'Union européenne a attribuée à Apple concernant les grèves de Spotify contre Apple. Donc une amende qui s'élève quand même à 1,8 milliard de dollars. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Décision de la Commission européenne qui a été communiquée donc hier le 4 mars 2024 après plusieurs années d'enquête sur la position dominante et les pratiques d'anticompétition d'Apple a priori. Et on parlera également d'Apple Pay avec l'entrée en vigueur du DMA hein, en Europe à partir de début mars, eh ben, on reviendra sur Apple Pay et le fait que Apple va ouvrir l'utilisation de la puce NFC à d'autres acteurs, ce qui va permettre aussi de pouvoir avoir des compétiteurs potentiellement à Apple Pay. Qu'est-ce que ça veut dire en France ? Quels sont les risques ? Comment s'organisent les banques françaises suite à ce nouveau changement ? Eh ben, on pourra en parler ensemble. On parlera aussi très très rapidement d'Instagram, petite nouveauté mineure hein, vraiment sur Instagram. Vous aurez la possibilité désormais de pouvoir modifier vos messages privés jusqu'à 15 minutes après les avoir envoyés. Si vous avez fait voilà une petite faute, etc. On verra un petit peu comment ça se passe. Vous pourrez aussi plus facilement accéder à certains fils de discussion depuis votre boîte de réception Instagram. Ça ne bouleverse pas la Terre, mais bon, voilà, je me disais que j'allais quand même le mentionner ce matin. Mais par contre, ce qui est un peu plus intéressant chez Meta, c'est du côté de Threads. Threads qui travaille dur à mettre à disposition une API pour la communauté des développeurs pour pouvoir développer des fonctionnalités pour Threads. Donc ça va être assez intéressant. On reviendra sur le sujet. Ça devrait être disponible aux alentours de juin prochain. Et puis ensuite, on fera un petit tour après Threads sur une plateforme similaire qu'ils essayent de copier, puisqu'on parlera de X et on parlera des appels audio et vidéo sur X qui, à l'origine, étaient limité finalement aux utilisateurs payants et qui va s'ouvrir à tous les utilisateurs. On essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure. Et puis, on continuera avec Elon Musk et Twitter/X, avec notamment une plainte à l'encontre d'Elon Musk de la part de 4 anciens dirigeants de Twitter à l'époque, Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde et Shane Edgett. Donc, on a l'ancien CEO, le CFO, le juridique et l'avocat général qui, ces 4 personnes, attaquent Elon Musk en justice après avoir été renvoyé de Twitter en octobre 2022. Ils reprochent notamment à Elon Musk de ne pas leur avoir versé plusieurs centaines de millions de dollars suite au rachat. Donc on reviendra un petit peu sur leur réclamation, leur plainte, et on essaiera de comprendre un peu la situation. Et puis, j'aurai peut-être un article intéressant, si je n'ai pas le temps de vous le faire, vous pourrez le retrouver de toute façon dans le flipboard de Naotech. Un article assez intéressant sur le potentiel nouvel export venant de Chine, qui serait de proposer des espèces de mini soap opéra via des applications dédiées pour être facilement consommées depuis un smartphone, depuis un appareil mobile, mais plus précisément depuis un smartphone, et donc un nouveau type de production de contenu qui ferait son arrivée depuis la Chine auquel ils ont rencontré un grand succès, qui arriverait sur le sol américain très bientôt. Donc on reviendra un petit peu sur ce nouveau style finalement de contenu et d'application qui pourrait voir le jour de notre côté et qui viendrait tout droit de Chine. Voilà, un article vraiment très intéressant du MIT Technology Review. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez retrouver l'article dans le Flipboard. Voilà un peu pour le programme ce matin. Donc comme vous voyez, pas mal de choses, hein. Au programme, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article et on va parler de Palantir ou Palantir. Je ne sais pas comment vous préférez que je le prononce. Palantir, c'est quoi ? C'est une société américaine qui tout simplement développe des outils d'aide à la décision. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est une société qui a été créée en 2003. Soi-disant grâce à des fonds provenant de la branche de la CIA, dédiés au financement et liés à l'origine à des commandements militaires et services de renseignement. Ça donne pas envie, hein, on va le dire comme ça. Donc Palantir aurait collaboré avec le gouvernement américain pour identifier des immigrés sans papier ou encore des cibles potentielles en Afghanistan. Voilà, donc tout ça, c'est la gestion d'informations pour l'aide, des outils d'aide à la décision grâce à l'analyse de données dans des domaines sensibles, comme on vient de le mentionner, comme la sécurité. Voilà. Et là, Palantir, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se lance à la conquête du marché européen, notamment des services publics européens. mais il rencontre des résistances, des difficultés. On a notamment des ONG comme Amnesty International qui pointent du doigt de longue date des risques de surveillance de masse et l'atteinte aux libertés individuelles. La société Palantir est même décrite, comme certains, comme le magazine Slate, comme malfaisante. Et voilà, d'un côté, elle est décrite comme malfaisante et de l'autre, elle se présente comme avoir contribué à protéger le monde du terrorisme. Donc voilà, c'est deux manières de voir l'information. Pour information, la société américaine Palantir est devenue rentable pour la première fois en janvier dernier. Elle a, ces dernières années, redoublé d'efforts pour s'implanter justement sur le marché européen, notamment en France. C'est pour ça que c'est intéressant quand même d'en parler. Elle revendique notamment environ une dizaine de clients dont une moitié n'a quand même pas souhaité rendre cette collaboration publique. C'est pour dire la mauvaise presse dont souffre l'entreprise Palantir. L'entreprise également fournit à l'Ukraine ses outils d'intelligence artificielle dans sa guerre contre la Russie et compte parmi ses partenaires le géant de l'aérospatiale Airbus quand même et la police danoise. Et elle a notamment des velléités d'expansion dans le secteur des services publics, comme je disais tout à l'heure. Elle travaille déjà avec des prestataires de santé américains aujourd'hui. Elle a notamment signé l'an dernier un contrat évalué à 330 millions de livres sterling pour centraliser les données du National Health Service, donc NHS, au Royaume-Uni. C'est le service public de santé du Royaume-Uni, hein, donc c'est énorme. Donc 330 millions de livres, ça fait environ 385 millions d'euros. Mais justement, suite à ce contrat hein, avec le NHS, le service public de santé du Royaume-Uni, y a certaines craintes, hein, notamment que les données des patients soient captées par Palantir sans garantie de ce qu'elles deviendront par la suite. Et donc, des associations et professionnels de santé ont engagé des actions juridiques pour dénoncer ce contrat. Leur objectif, c'est évidemment de faire pression contre le gouvernement britannique ici pour dévoiler les conditions du contrat afin d'obtenir des garanties quant à la protection des données, ce qui semble pas déconnant ici quand même. De savoir qu'un acteur américain a un contrat colossal avec le service public de santé britannique, c'est quand même pas étonnant que du coup les professionnels du secteur souhaitent connaître les conditions du contrat pour garantir la sécurité et la protection des données de leurs patients. Voilà, il s'agit ici quand même de données sensibles, extrêmement sensibles. De plus, c'est vrai que pour ajouter à la réputation de la société Palantir, on peut regarder notamment son fondateur, hein, fondateur de la société. C'est quand même un milliardaire libertarien qu'on connaît sous le nom de Peter Thiel. Je pense que pour pas mal d'entre vous dans la chatroom, ring a bell, dire quelque chose. Et il est quand même souvent l'objet de controverses. La dernière, c'est quand même, il s'est exprimé pour dire « Les autoroutes créent les embouteillages, les aides sociales créent la pauvreté, les écoles rendent les gens bêtes et le NHS rend les gens malades. » NHS, donc service public de santé britannique avec lequel sa société a conclu un accord assez impressionnant. Donc ça, c'est une déclaration qu'il a lancée en janvier 2023, qui assimile le rapport des Britanniques à leur service public de santé à un syndrome de Stockholm. Ce qui est quand même assez particulièrement mal vu. et qui montre un petit peu son positionnement par rapport à certaines valeurs fondamentale en Europe, ou j'ai envie de dire aussi en France, hein, notamment sur l'aspect social, le volet social. Donc moi personnellement, certainement pas, je n'ai pas vraiment envie de m'associer à un acteur américain qui a ce type de vue. Mais intéressons-nous justement un petit peu plus à ce qui s'est passé aujourd'hui en France et potentiellement en Allemagne pour la société jusqu'ici. En 2018, on a notamment un ancien dirigeant d'Airbus qui a pris la tête justement de la branche française de Palantir, hein, avec justement l'objectif de faire augmenter les effectifs et le carnet de clients en France. Mais la stratégie a rencontré quelques difficultés, hein, notamment quelques embûches. La Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qui avait conclu un contrat avec l'entreprise en 2015, a récemment décidé de s'en séparer, préférant des outils français. C'est pas très, très étonnant parce que depuis quelques années, et notamment depuis la crise sanitaire en 2020, il y a quand même un vrai renouveau de la souveraineté nationale, de la souveraineté européenne, mais également de la souveraineté nationale, pour garantir sur des infrastructures critiques et clés pour le pays une souveraineté, une indépendance ici pour garantir le bon fonctionnement des services et la protection des données. Et donc, du coup, c'est très, très logique ici que la DGSI, quand même, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, se dise « on va peut-être pas utiliser les services américains pour faire tourner nos outils ». Donc, pas étonnant qu'ils préfèrent des outils français. Autre revers aussi du côté allemand, c'est un tribunal allemand qui a décidé l'an dernier d'interdire l'utilisation par la police de son logiciel de surveillance à la suite d'une procédure engagée par la Société allemande pour les droits civils qui s'inquiétait ici notamment de risques d'erreur et de discrimination. Voilà, donc de plus en plus de méfiance. Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant, justement, que du côté de la France et de l'Allemagne, en tout cas de l'Europe, on se pose ce genre de questions. Au moins se poser ce genre de questions, au moins demander de la transparence sur les conditions des contrats et les garanties apportées en termes de sécurité et d'utilisation des données, ce qui est demandé notamment au Royaume-Uni aussi, hein. Pour le NHS, mais c'est pas étonnant aussi que quand il y a d'autres options, des options alternatives aussi performantes qui vont garantir la souveraineté nationale, que du coup, les services comme la DGSI se reportent sur ce type de service-là, ce type de service français. Donc c'est vraiment, vraiment pas étonnant. En effet, à performance égale et qualité égale, autant se tourner vers des acteurs français ici. On est vraiment sur garantir les intérêts ici de chaque pays et de chaque force politique, on va dire, sur la scène internationale. Voilà. Donc, pas étonnant, mais du coup, c'était peut-être pas autant anticipé de se heurter à un mur pareil pour Palantir. Voilà pour la société américaine. Yves, tu nous dis quelque chose d'assez logique. Je dis que l'Europe défend ses intérêts politiques, mais c'est pas les seuls à faire ça. Hein. Les Américains sont aussi les premiers à le faire. La Chine également, etc. Mais c'est voilà, on va pas jeter la pierre à l'Europe ou à la France d'essayer de garantir ses propres intérêts. C'est sûr que ça va pas s'améliorer, notamment si on verra avec les nouvelles élections présidentielles américaines. Si Trump revient à la tête du pays, ça risque pas s'arranger non plus. Donc on continue ici avec Apple cette fois-ci. Donc on s'intéresse à une société américaine avec Palantir, mais on continue sur une société américaine cette fois-ci avec Apple, notamment avec leurs annonces de nouveaux produits qui vont arriver finalement très très vite, qui n'ont pas été annoncés lors d'une keynote de printemps. Et qui ont été tout simplement annoncés hier. Donc c'est la nouvelle génération de MacBook Air. Tout simplement, donc la nouvelle génération se dote de la puce M3, nouvelle génération, avec les tailles 13 pouces et 15 pouces, qui sont les nouvelles tailles standards hein, pour les MacBooks. Les nouveaux modèles sont déjà disponibles en précommande dès aujourd'hui pour ceux qui souhaitent commander et seront envoyés à partir du 8 mars prochain. Donc ça arrive très très vite et donc pour ceux qui les attendaient, vous pouvez déjà planifier vos achats. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur les nouveautés sur cette nouvelle génération de MacBook Air ? Alors, on a notamment le support ou la compatibilité de pouvoir utiliser un MacBook Air avec deux écrans externe, quelque chose qui était longtemps attendu puisque c'était quelque chose que les MacBook qui avaient le processeur Intel fonctionnaient et permettaient. Vous pouviez à l'époque connecter deux écrans externes tout en utilisant l'écran du MacBook Air. C'est pas tout à fait exactement ce qui est permis aujourd'hui avec la nouvelle génération de MacBook Air, parce que certes, vous pourrez utiliser deux écrans externes à condition que votre MacBook Air soit fermé. Donc, c'est encore pas exactement ce qui était attendu ici. Il y a une petite amélioration, mais c'est pas encore ça. Voilà. Étonnant. Mais écoutez, c'est voilà, certaines limitations des processeurs. Donc voilà, vous ne pourrez toujours pas utiliser deux écrans externes en plus de votre MacBook Air. Vous pourrez uniquement utiliser deux écrans externes si votre MacBook Air est fermé. Voilà, donc vous êtes prévenus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus concernant le Wi-Fi? Donc, le Wi-Fi a été amélioré pour supporter la norme Wi-Fi 6E, ce qui permet d'avoir une taille maximale de téléchargement qui est deux fois supérieure à la génération précédente. Donc, ça, c'est quand même bienvenu, hein, on ne va pas s'en plaindre. On a également... au niveau du design, quelque chose d'assez classique, hein, on garde le design du M2, donc rien de révolutionnaire ici en termes de form factor ou de design pour le MacBook Air. Ce que je peux vous dire par contre du côté des processeurs, donc on aura un CPU 8 cœurs. Qui peut être augmenté jusqu'à 10. Pardon, non, excusez-moi, je dis des conneries. Voilà, donc un 8-core CPU, je sais pas, ce genre de spec ne m'intéresse pas trop, qui peut être combiné avec un 10-core GPU. Voilà, bon, ça doit être très bien, hein, mais bon, les ordinateurs sont déjà excellents. Mais ce n'est pas étonnant qu'à chaque fois, ils se perfectionnent avec chaque nouvelle génération. Et il y aura également l'inclusion d'un 16-core Neural Engine qui sera encore plus rapide. Bon, tout est beaucoup plus rapide, c'est déjà très très bien. Voilà. En termes de couleurs, vous l'aurez en quatre couleurs disponibles: Midnight, Starlight, Space Gray et Silver. Voilà, donc je crois que c'est assez classique ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une nouvelle couleur. Voilà. Et en termes de prix, qu'est-ce que je peux vous dire aussi en termes de prix? Donc, on a le 13 pouces MacBook Air M3 qui va commencer, donc j'ai que les prix en dollars ici, à 1099 $, 999 pour l'éducation. Le modèle 15 pouces, lui, va commencer à 1299 $, ce qui équivaut à 1199 pour l'éducation. C'est les mêmes prix, a priori, que la dernière génération M2. Donc, il n'y a pas de surprise, a priori, ici. Voilà, le MacBook Air M2, donc l'ancienne génération maintenant, le 13 pouces, reste en petite promo avec un nouveau prix plus bas à $999. Je vous rappelle quand même que c'est quand même des prix assez avantageux avec un modèle qui marche extrêmement bien. Ils arrêtent de supporter le modèle M1. Ce n'est pas très, très étonnant aussi pour garder une gamme assez simple ici à comprendre. Voilà. Un grand, grand merci à Planetscape, Sigil et The Gold Killer pour vos soutiens ce matin. Un grand, grand merci à vous. Pas de 17 pouces en effet, David le panda fou. Pas de 17 pouces et en plus, ils ont arrêté le 16 pouces puisqu'ils se sont reportés sur le 15. Donc, parce que moi, je crois que j' ai encore un 16 pouces. J'ai un doute. J'aurais dû vérifier ce matin. Mais je crois que moi, j'ai un 16 pouces M2. Il me semble. Je l'ai eu juste avant qu'il change pour le 15 pouces, il me semble. Hein. Il me semble. Attendez. Est-ce que je peux chercher rapidement? Oui, c'est ça. J'ai un 16 pouces MacBook Pro. Ouais, j'ai un MacBook Pro, moi. J'ai pas un MacBook Air. Ils n'avaient pas sorti un 15 pouces MacBook Pro aussi, après? Il me semble. Et... Les R sont en 13 et 15 et les Pro en 14 et 16. D'accord. Oh, je vais halluciner alors. Ouais, après, c'est pas très étonnant en effet que pour la gamme Pro, ils optent pour des écrans plus grands. Mais j'avoue que moi, 15 pouces, c'était un bon compromis. Je me rappelle une ancienne génération que j'avais. Et le 15 pouces était une bonne taille pour moi. Ok, donc du coup, voilà, bah, merci d'avoir clarifié KZ. Donc, pour éliminer tout doute, les MacBook Air sont disponibles en 13 et 15 pouces et les MacBook Pro en 14 et 16 pouces. Et donc là, il s'agit donc d'un renouvellement de la gamme MacBook Air pour les 13 et 15 pouces avec la génération de puces M3, des puces, des processeurs globalement beaucoup plus rapides, nouvelles normes de Wi-Fi supportées. Voilà, donc pour ceux qui attendaient la nouvelle génération, vous n'avez plus besoin d'attendre. Voilà. Oui, je suis d'accord, un 16-17 pouces pour une gamme Air ultra portable, c'est pas, ça semble pas très aligné avec les besoins des utilisateurs. Voilà. Mais j'ai entendu des plaintes de personnes qui ont des petits problèmes de vue, qui auraient apprécié avoir un écran plus grand. Donc voilà, donc tu, y a aussi ça, c'est l'accessibilité finalement. L'accessibilité qui fait que bah, pour certaines personnes, un écran plus grand serait plus confortable. Alors après, on peut très bien passer sur un écran externe, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un grand écran externe, mais qui auraient bénéficié d'un écran portable un peu plus grand. Voilà. Donc voilà en tout cas en ce qui concerne la nouvelle génération de MacBook Air ici pour Apple. Donc déjà disponibles en précommande et qui seront envoyés à partir du 8 mars. Donc ça arrive tout bientôt. Et je vous propose de continuer l'actualité avec encore Apple. Et cette fois-ci, on va revenir sur la décision de la Commission européenne de donner une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple. Donc ça s'est passé hier. Après plusieurs années d'enquête, la Commission européenne a annoncé donc infliger une amende record à Apple. Dans son viseur, donc, c'est les pratiques d'Apple pour favoriser Apple Music sur ses appareils au travers les règles de l'App Store. Et donc la déclaration, c'est la commission a constaté qu'Apple avait imposé aux développeurs d'applications des restrictions les empêchant d'informer les utilisateurs d'iOS de l'existence d'autres services d'abonnement à la musique moins chers disponibles en dehors de l'application. Donc ça, c'est, ça fait partie du communiqué hein, de l'annonce de l'amende. Et donc, comme je disais, après plusieurs années d'enquête, la commission est arrivée à la conclusion que plusieurs pratiques n'étaient pas acceptables et que c'était interdit, hein, que c'était, qu'Apple interdisait de manière illégale aux développeurs de faire la promotion pour leur abonnement sur leur site, expliquer pourquoi un prix est plus cher sur l'App Store à cause de la commission des 30%, et interdisait également d'ajouter des liens dans une application pour proposer de payer ailleurs, ce qui limitait évidemment les développeurs d'applications. Pour l'Europe, donc, ce comportement d'Apple affecte négativement l'expérience d'iOS, puisque Apple, la conclusion, a sans doute fait payer des utilisateurs plus cher pendant 10 ans, en leur cachant la vérité sur la commission des 30%. Donc, pourquoi 1,8 milliard d'euros? Ça peut être un peu étonnant en termes de montant. Même pour une société comme Apple, qui a des profits impressionnants, ça reste un montant colossal. Voilà. Et donc, en fait, ils ont dit pour fixer le montant de l'amende, la commission aurait tenu compte de la durée et de la gravité de l'infraction, ainsi que du chiffre d'affaires total et de la capitalisation boursière d'Apple. Et elle a également tenu compte du fait qu'Apple a fourni des informations incorrectes dans le cadre de la procédure administrative. Donc là, c'est une bonne claque quand même, hein, une bonne correction ici de la Commission européenne. Hein. Elle est arrivée donc à la conclusion que le montant total de l'amende, qui s'élève à plus de 1,8 milliard d'euros, est proportionné au chiffre d'affaires mondial d'Apple et est nécessaire pour assurer la dissuasion. En effet, si on suit un petit peu le raisonnement, ça sert à rien d'infliger une amende où pour Apple, c'est plus intéressant finalement de la payer que de se défendre et de rejeter, etc. Donc il faut que ça soit un montant suffisamment important pour pénaliser finalement Apple et les forcer soit à changer leur pratique, soit finalement à faire appel, etc. Voilà, donc... comment Apple a réagi ici à cette décision? Eh ben, pas très très bien. Ils se sont défendus dans un billet de blog qui a été assez étonnamment long finalement pour Apple et qui a été publié sur sa newsroom. Et bah voilà, Apple s'indigne un petit peu de la décision qui a été prise. Ils disent notamment le principal défenseur de cette décision et le plus grand bénéficiaire de cette décision, c'est évidemment Spotify, qui est une société quand même basée à Stockholm en Suède, en Europe. Et Spotify possède la plus grande application de streaming musical au monde et a rencontré la Commission européenne plus de 65 fois au cours de cette enquête. Apple dénonce évidemment que la décision a été prise alors que la Commission n'a pas trouvé de preuves crédibles de préjudice pour les consommateurs et ignore les réalités d'un marché florissant, compétitif et en pleine croissance. Apple aussi reproche à Spotify de détenir 56% du marché du streaming en Europe et de ne lui verser aucune commission et d'avoir compté sur son aide pour se développer. C'est intéressant parce qu'en effet, d'un côté, on reproche à Apple d'avoir eu des conditions très drastique et empêchant de communiquer de manière ultra transparente aux utilisateurs sur les prix qu'ils payaient et de pouvoir payer, de prendre des abonnements en dehors de l'App Store pour pas payer ces 30% de commission. D'un autre côté, c'est grâce aussi à l'écosystème de l'App Store qui a permis de faire surgir ces business-là et de pouvoir faire surgir ce genre de société florissante ici. Et finalement, j'ai envie de dire, moi, je me pose la question, j'aime bien l'idée d'avoir une amende qui pénalise la durée des pratiques d'anticompétitivité d'Apple. Mais là où je me dis qu'il y avait des pratiques d'anticompétitivité, c'est peut-être plus quand Apple Music est arrivé, finalement. C'est-à-dire le propre concurrent d'Apple à Spotify et pas avant. Finalement, Apple Music n'existe pas depuis si longtemps que ça. Je n'ai pas la date. Attendez, je vais chercher la date de lancement d'Apple Music. Au lieu de vous dire des bêtises. Je regarde rapidement. Apple Music a été dévoilé lors de la WWDC 2015, 8 juin 2015. Donc presque, pas tout à fait 10 ans, mais presque. Et ça a été lancé le 30 juin 2015. Il y en a qui ont des très bonnes mémoires hein, dans la chatroom. Ils frisent. Je suis impressionnée. C'est presque flippant. Presque flippant que tu te rappelles de la date de lancement d'Apple Music. Je ne pensais pas du tout que ça faisait aussi longtemps que ça s'était lancé. Donc autant pour moi. Alors, je ne parle pas d'iTunes parce que pour moi, ce n'est pas le même modèle, mais vraiment d'Apple Music. Donc, du coup, je trouve ça intéressant pour moi, les pratiques finalement d'anticompétitivité et d'Apple, on pourrait leur critiquer au moment du lancement d'Apple Music où du coup, Apple aurait pu favoriser finalement leur propre service, ce que Spotify leur reproche, hein, notamment de permettre à Apple de pouvoir promouvoir leur propre service de streaming Apple Music via des notifications qui dit « Hey, découvrez Apple Music », etc. alors que les gens ne l'utilisent pas forcément, alors que les autres applications ne peuvent pas le faire. J'ai envie de dire, bah, en effet, tant que tu n'as pas installé Spotify, tu ne vas pas pouvoir recevoir des notifications, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a une espèce de favorisation de la plateforme, finalement, ou des services qui sont disponibles directement sur la plateforme. Mais je ne l'aurais pas sanctionné avant qu'Apple Music arrive. En tout cas, Apple dénonce ici un chantage de Spotify qui a été quand même téléchargé 119 milliards de fois et qui lui doit une partie de son succès. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas nier que c'est grâce à l'écosystème de l'App Store et au business que Apple a mis en place avec ses règles qu'ils ont permis d'avoir une expérience sécurisante pour les utilisateurs, grand public, et qui a permis de démocratiser cet aspect d'achat in-app et de faire du business depuis l'App Store avec les applications, etc. Et ce qui permet à Spotify, du coup, d'être une société florissante ici. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis, l'autre réalité où il y a, avec l'arrivée d'Apple Music, potentiellement des pratiques qui ne sont plus acceptables, finalement, avec l'arrivée d'Apple Music pour Apple et la Commission européenne. Spotify se frotte les mains. C'est pas très étonnant. Apple, Spotify, eux, ils sont trop contents. Je suppose qu'ils ont débouché le champagne hier. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Alors attendez, je vérifie parce que j'avais un autre article où il y avait un éclairage assez intéressant que je voulais vous partager. Donc voilà, les reproches de Spotify, je vous le rappelle quand même à l'époque, c'était justement la fameuse taxe Apple où ils se plaignaient des 30% de commission et le fait aussi que l'Apple Store limitait les communications auprès de leurs utilisateurs sur le fait de ne pas pouvoir justement communiquer sur le fait que c'était plus intéressant de vous abonner à Spotify en dehors de l'App Store et en dehors de l'application Spotify même. Dès 2021, et ça c'est intéressant quand même, Apple avait quand même fait des concessions ici. Vous avez autorisé les développeurs à promouvoir d'autres méthodes de paiement en dehors de l'application iOS via des communications email. Donc il était possible pour les utilisateurs de, pour notamment Spotify, généralement tu commences avec peut-être une formule gratuite et donc tu pouvais recevoir un email qui disait « Ah bah si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous ». Sur le web et pas sur l'application Spotify. Début 2022, Apple a commencé à autoriser les développeurs à carrément mettre des liens vers leur propre site internet dans les applications mobiles iOS, justement pour rediriger au bon endroit pour souscrire. Et c'était limité à des applications dites de lecture qui permettaient de consommer du contenu digital enfin numérique comme Netflix, Kindle ou Spotify. Donc c'est typiquement ce que la Commission européenne a visé ici hein, avec son amende. Et donc c'est intéressant parce que cette amende de 1,8 milliard de dollars arrive juste avant justement que la nouvelle réglementation, le DMA, hein, le Digital Market Act, rentre en vigueur le 7 mars prochain, qui va permettre pour la première fois des applications, des marketplaces tierces de pouvoir télécharger des applications depuis d'autres marketplaces en dehors de l'App Store. Et donc, c'est la première fois aujourd'hui que ça va être autorisé. Alors, évidemment, ça, cette réglementation, et Apple avait prévenu de comment ils allaient y répondre, ils ont quand même prévu d'avoir une commission de 17% pour les développeurs qui utilisent leur propre méthode de paiement ou qui mettent le lien vers leur propre site internet, plus un frais annuel de 0,50 centimes par installation d'application. Après le premier million d'installations. Et évidemment, Spotify dit que c'est absolument pas acceptable et que ça va rigidifier finalement rigidifier l'écosystème de développement et ça va à l'encontre de l'esprit du DMA finalement, du Digital Market Act. À savoir aussi, dès le 1er mars, Spotify avait aussi publié une lettre ouverte qui avait rassemblé 33 autres sociétés et associations qui avaient mis en lumière certaines critiques à l'encontre d'Apple sur la manière dont Apple allait répondre comply. Désolée, la traduction en temps réel, c'est compliqué. Qui allait s'aligner finalement avec les nouvelles réglementations du DMA. Et ils avaient averti notamment l'Union européenne que la réponse de l'Union européenne quant à la manière d'Apple de s'aligner sur la nouvelle réglementation allait donner le ton sur la crédibilité un peu du DMA. Évidemment, Spotify pousse un petit peu l'Union européenne à taper du poing sur la table, à se conformer. Merci, Machine. Machine linguiste, tu portes bien ton pseudo. Machine linguiste, un grand merci, se mettre en conformité. Exactement, Lou Deter. Donc voilà, Spotify et 33 autres sociétés et associations avaient un peu à critiquer la manière d'Apple de se conformer à la nouvelle réglementation du DMA, comme quoi ils contournaient l'esprit même du DMA en mettant des bâtons dans les roues de la communauté des développeurs ici. Mais c'est pas tout, parce que là, c'est vrai qu'on le regarde un peu sous l'angle européen, et c'est logique parce que c'est la Commission européenne qui a sanctionné Apple ici. Mais c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où justement une cour américaine avait également sanctionné Apple, et contraint Apple à autoriser les développeurs à permettre d'avoir des liens vers d'autres méthodes de paiement, notamment là cette fois-ci c'était mené par Fortnite, hein, enfin Epic Games pour Fortnite, et Apple avait donc autorisé les développeurs à commencer à partager ce type de liens. Mais ils avaient quand même informé qu'ils allaient continuer à prendre un coût de 27% de tout achat numérique, ce qui était une petite réduction sur le taux de 30%, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Autre point, parce que c'est pas terminé avec l'arrivée du DMA. L'arrivée du DMA va permettre à la Commission européenne de regarder aussi la politique d'Apple ce qui concerne la restriction de l'iPhone sur l'utilisation du tap-to-pay de la puce NFC, pour son propre wallet, son application wallet, son portefeuille, son application de portefeuille qui permet justement d'avoir des cartes et de payer vraiment en double tap. Très très facilement et de manière instantanée dans des commerces. Et ça, c'était une limitation propre à l'application Apple, ce qui ne permettait pas les banques de proposer des options alternatives. Et donc, du coup, ils ont été pointés du doigt ici par la Commission européenne. Et donc, Apple, désormais, a autorisé ça. Et donc, ça m'amène à l'autre article qui concerne également Apple, et ça, cette fois-ci, Apple Pay. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de... Hop. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça force Apple Pay à lâcher du lest, hein, sur l'iPhone et de faire face à potentiellement des services de paiement alternatifs. Et donc, du coup, c'est là où potentiellement des banques françaises seraient en train de songer sérieusement à quitter le navire d'Apple Pay pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, c'est ce que nous dit Frandroid ici. Alors là, je sens que certains commencent à suer un petit peu. C'est mon cas. Moi, j'utilise Apple Pay au quotidien et j'en suis très, très contente. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Apple Pay est-il sur le point d'être chamboulé en France? C'est un peu la question qu'on peut se poser, et notamment ce que pose la question d'un article de iGeneration. Alors que la mise en application du DMA va rentrer en vigueur le 7 mars, donc très 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 bientôt, ça approche à grands pas. Et donc Apple est obligé ici de lever certaines restrictions qu'ils imposaient, notamment sur le paiement mobile, les puces NFC des iPhones. Et donc du coup, pour Apple, pour pouvoir se substituer à une carte bancaire, un smartphone exploite la puce NFC. Excusez-moi, j'ai des notifications en décalage sur l'iPad, ça m'a déconcentré. Donc oui, pour qu'un smartphone puisse se substituer à une carte bancaire, eh ben, ils utilisent la puce NFC lors d'un paiement mobile. Or, sur les iPhones, Apple bridait volontairement la fonctionnalité pour que les transactions effectuées ne puissent s'effectuer qu'en passant par Apple Pay. Un comportement aujourd'hui qui, à la lumière du DMA, est jugé comme un abus de position dominante ici par la Commission européenne. Et c'est donc un point important qui va être modifié dans le cadre du DMA. Donc, du coup, ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement aux banques qui vont pouvoir se tourner vers des solutions de paiement alternatives à Apple Pay, à la manière de ce que l'on peut voir sur notamment Android, où les établissements ne sont pas obligés de passer par Google Wallet, ce qui a aussi potentiellement impacté le succès de Google Wallet ou la démocratisation du paiement mobile aussi, enfin instantané. Mais est-ce que ça va carrément inciter des banques à quitter Apple Pay, eh ben là, c'est quelque chose qu'on peut explorer un petit peu. A priori, on a notamment un porte-parole du groupe européen Payment Initiative, qu'on appelle EPI, qui s'est montré un petit peu loquace sur le sujet, Il dit notamment « Les mesures annoncées par Apple représentent un grand pas en avant pour le monde du paiement numérique, en particulier pour les usages mobiles en point de vente. Elles vont contribuer à favoriser considérablement l'adoption du paiement mobile par les consommateurs en leur ouvrant davantage de possibilités en matière de solutions de paiement. » Je ne suis pas sûre ici, c'est là où je ne comprends pas trop le rationnel. De, elles vont contribuer à favoriser considérablement l'adoption du paiement mobile par les consommateurs. Je trouve que de permettre la compétition sur des services de type streaming musical, je comprends l'intérêt parce que ça va directement à l'avantage du consommateur ici sur des prix plus intéressants, sur une expérience de meilleure qualité, etc. Là, le rationnel ici pour Apple Pay, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir une méthode de paiement mobile. 36 000 méthodes de paiement mobile où chaque banque va potentiellement avoir son propre paiement ou méthode de paiement, etc., va permettre une meilleure adoption parce que, on le sait, l'expérience numérique n'est pas la spécialité des banques. On se prend la tête sur la qualité des applications mobiles aujourd'hui. Enfin, franchement, ça reste assez pitoyable. Enfin, disons-le comme il est, hein. À part les banques qui ont un ADN numérique, les autres banques sont quand même graves à la ramasse en termes d'expérience d'applications mobiles. Et donc, c'est quand même pas ultra rassurant de se dire qu'elles vont elles-mêmes pondre leur système de paiement mobile. Enfin, franchement, j'y crois pas du tout. Et je ne pense pas qu'avoir une expérience galère, compliquée et mauvaise va aider à l'adoption de ce type de paiement. Franchement, j'y crois pas. Surtout quand on voit que la plupart des banques aujourd'hui supportent Apple Pay. Donc en fait, là, et c'est vrai que finalement, là où Apple a réussi son coup, c'est qu'Apple Pay, pour ceux qui ont un iPhone, est devenue la définition même d'un paiement instantané mobile. On ne pense pas à autre chose, finalement. C'est comme quand on dit Kleenex pour les mouchoirs. c'est que, finalement, la marque elle-même, ou le nom du service elle-même, est devenu synonyme du service, de la fonctionnalité. Et c'est là la force d'Apple. Après, là où, en effet, ça peut favoriser les consommateurs, c'est que Apple prend certains frais, ici, va prélever certains frais sur les transactions, etc., etc. Des frais qui vont être répercutés sur le consommateur, hein, parce que quand vous payez vos banques sur les frais, l'accès à une carte, etc., bah, finalement, les banques, elles vont reporter ce qu'elles doivent payer à Apple sur les consommateurs. Enfin, il ne faut pas se leurrer, ici. Donc là où je vois un intérêt finalement pour les consommateurs, c'est avoir quelque chose d'un peu plus compétitif sur des frais qui sont appliqués. Mais c'est vrai que Apple Pay est très facile et a favorisé finalement l'adoption de ce type de service et de cette nouvelle manière de payer. Et c'est vrai qu'on le voit, Grolb le mentionne très bien dans la chatroom, c'est devenu assez... Enfin, c'est rentrer dans les habitudes de payer avec Apple Pay, de payer avec son smartphone. Les marchands, les commerçants ne nous regardent plus bizarrement quand on tend son smartphone pour payer. Ça arrive encore avec la montre. Je vois que Jérôme fait toujours parler certains commerçants quand ils payent avec son Apple Watch, mais de moins en moins. Donc ça rentre dans les habitudes et ça marche aussi avec le fait que la méthode de paiement est facile. Apple prend une commission, c'est dégueulasse. Melmox, j'ai envie de dire, tous ceux qui processent des paiements prennent des commissions. C'est un business model. Mastercard et Visa, tu crois qu'ils font quoi? Aussi, ils le font. Stripe aussi, évidemment. C'est des sociétés qui facilitent le paiement entre un acheteur et un commerçant. Évidemment, pour faciliter cet échange, ils prennent une commission. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est un service comme un autre. Alors maintenant, on peut discuter, et je suis d'accord avec toi, c'est le montant de ces commissions qui peut être critiqué et qui peut, du coup, d'ouvrir ça à la compétition, peut justement faire baisser le prix des commissions. Voilà, et Jérôme le dit aussi, intéressant, un service peut être dominant par son excellence, mais pas en bloquant la concurrence. Et donc, c'est tout l'enjeu ici, de ce qui va se passer, un petit peu un bras de fer qu'on peut anticiper avec les banques françaises et Apple Pay. Donc le pays, pour revenir sur le sujet de le pays pour rappel c'est European Payment Initiative, c'est une initiative qui est portée par une quinzaine de banques dont les grands acteurs français tels que Crédit Mutuel, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole et la Banque Postale et la Société Générale, le but étant de créer une solution de paiement unifié en Europe. Donc là, on peut saluer, enfin voilà, en tant qu'Européenne convaincue, moi je ne suis pas timide là-dessus, je suis une Européenne convaincue, je salue cette initiative. Je trouve ça très très bien qu'on se muscle un petit peu en Europe pour avoir ce genre de services alternatifs. Et donc du coup, voilà, on a donc le Ludovic Francesconi, qui est donc le porte-parole de, et directeur de la stratégie pour EPI, qui s'est exprimé et il dit « Nous allons profiter de cette ouverture du schéma pour étudier l'opportunité d'utiliser l'antenne NFC des iPhones de la même manière qu'avec les téléphones Android afin de faciliter le paiement en point de vente. » Donc là, c'est plutôt, plutôt bien, plutôt intéressant. Et donc, du coup, les banques françaises, entre autres, songent sérieusement, potentiellement, à quitter le giron d'Apple et ils seraient en train de plancher, en effet, sur une application de paiement baptisée Wero. Alors, évidemment, là, ici, encore une fois, Apple Pay, c'est directement disponible depuis la plateforme Apple. C'est un peu ce qu'on se disait, notamment avec Apple Music versus Spotify. Spotify, vous avez toujours cette contrainte de devoir télécharger l'application Apple Music, c'est par défaut installé. C'est un peu le même truc ici avec Apple Pay. Apple Pay, c'est carrément quelque chose que vous pouvez configurer, je crois, lorsque vous démarrez avec iOS ou lorsque vous achetez un nouvel iPhone. Je crois qu'il y a cette étape Apple Pay. Alors, vous pouvez la passer, mais déjà de pouvoir configurer dès le départ, dès que vous installez un iPhone Apple Pay, il y a un fort avantage ici et une facilité d'utiliser Apple Pay. Voilà. Alors que Wero, bah, il va falloir attendre de configurer son iPhone, d'avoir tout installé pour ensuite pouvoir accéder à l'App Store et ensuite télécharger l'application Wero et configurer cette application. Donc déjà, il y a une première barrière finalement ici. Qu'est-ce que ça veut dire potentiellement à l'avenir? On peut se dire qu'on demandera à Apple de ne plus parler d'Apple Pay au moment de la configuration de l'iPhone, mais uniquement, et de ne pas l'installer potentiellement par défaut, et uniquement de demander aux utilisateurs de télécharger proactivement depuis l'App Store l'application Apple Pay ou l'application Wero. Bon. Alors là, ben, c'est l'expérience utilisateur qui en prend un coup, parce que c'est vrai. Voilà, l'expérience utilisateur va en prendre un coup pour favoriser ici la compétitivité, je n'ai pas envie de dire de favoriser la compétition, mais en favoriser un environnement où la compétitivité puisse s'épanouir ici. Et donc voilà, l'ouverture de la puce NFC d'Apple constitue ainsi une corde supplémentaire à l'arc de pays pour la réussite de son projet. Donc évidemment, il se félicite ici sur l'ouverture. Alors c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que les banques françaises auraient pu pousser l'adoption de Paylib, et vous en avez parlé notamment dans la chatroom de Paylib, mais a priori, ben, il se porterait plutôt sur le développement de l'application Wero. Et donc, ils disent, Wero commencera à être intégré aux applications bancaires de nos banques membres au cours de l'été, avec des lancements étalés pour la France, l'Allemagne et la Belgique entre juillet et fin octobre. L'app Wero devrait être disponible, quant à elle, courant septembre sur le marché français. Voilà, et le timing est assez rigolo parce que moi j'ai reçu carrément un email de ma banque cette semaine qui me disait votre carte bancaire n'est plus disponible sur Apple Pay, et là j'ai vu rouge. J'ai envoyé un mail à mon conseiller directement en disant qu'est-ce qui se passe là, j'ai rien fait, j'ai pas eu de problème de transaction, pourquoi j'ai plus accès à Apple Pay, je suis absolument pas d'accord, ça, j'ai l'habitude de payer avec Apple Pay, en gros je me suis énervée toute seule. Parce que c'est vrai que j'ai tellement pris l'habitude finalement de payer avec Apple Pay que bah, ça m'a saoulé de me dire sans aucune raison claire, on me dit je peux plus utiliser Apple Pay. Bon, c'était une erreur, voilà, autant pour eux. Mais est-ce que c'était pas une manière de tester leur email et de me dire qu'en septembre je pourrais plus utiliser Apple Pay? Bon, J'espère pour eux qu'ils clarifieront dans leur email les raisons. Voilà, au moins, pour une question de transparence. Voilà, voilà, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Je regarde. En gros, l'expérience pour Apple Pay va être comme les cartes de fidélité. Très souvent, pour les cartes de fidélité, pour ajouter dans Wallet, il n'y a pas d'option officielle centralisée. On est obligé de passer, par apparaître pour pouvoir les rajouter. C'est une galère sans nom. Ouais, je ne suis pas sûre. J'avoue, je n'utilise pas assez les cartes de fidélité. Bah, voilà. Bon point. L'expérience n'est tellement pas évidente qu'en fait, je n'ai pas du tout pris l'habitude d'ajouter les cartes de fidélité dans le wallet. Alors, l'erreur à la bondo, car ils m'ont fait exactement la même chose il y a 2 mois. Est-ce que ce n'est pas vraiment une façon de tester? Jean Hama, je pense que ça serait malvenu parce qu'en fait, je ne pense pas que c'est une bonne manière de tester, tu vois, d'envoyer un faux mail genre « vous n'avez plus accès à Apple Pay ». Parce qu'en fait, ça serait beaucoup plus malin d'avoir un email qui explique « on passe d'Apple Pay à Wero, vous pouvez toujours bénéficier d'une méthode de paiement directement en double tap depuis votre smartphone, mais cette fois-ci, ça se passe via Wero ». Enfin, ça serait quelque chose qui serait beaucoup plus compréhensible et acceptable d'un point de vue consommateur. Autant pas se tirer une balle dans le pied quand même. Ça serait très étonnant quand même de la part des banques. Mais bon, c'est mon avis. Et voilà, ils n'ont pas proposé notre service dans l'email. C'est là où, pour moi, ils se tiraient une balle dans le pied, finalement. Je suis content que cette appli arrive, car Caisse d'Épargne ne fait pas Google Pay, juste Samsung et Apple, car ils disent Google ne protège pas assez la confidentialité. Ah ouais. Samsung Pay va être encore moins utilisé qu'avant. Potentiellement, ouais, potentiellement. Google Pay est énormément utilisé. Le fait d'utiliser Google Pay ne t'empêche pas d'utiliser aussi Samsung Pay et Paylib. C'est ça la puissance d'ouvrir à la concurrence. À voir, hein, à voir. Le risque ici qui peut arriver, notamment pour les consommateurs, et c'est ce que je dis, c'est que bon, bah, ça va un petit peu moins faciliter l'expérience utilisateur. Mais en même temps, c'est aussi le cas quand maintenant vous avez le choix des navigateurs, etc., etc. Donc vous aurez un peu plus le choix. Et donc pour ceux qui n'ont aucune idée finalement, bah, ça sera un peu plus compliqué. Pour ceux qui sont informés comme vous et moi, bah, pour nous, on pourra toujours se débrouiller. L'autre point, c'est que finalement, nos banques ne supportent plus Apple Pay. Et donc là, c'est moins de choix finalement pour les consommateurs. Parce que ce n'est pas comme si vous auriez le choix entre Apple Pay ou Wero, c'est votre banque finalement qui va accepter ou pas de supporter des standards. Et c'est ça finalement où ça ne va pas vraiment en faveur des consommateurs ici. Voilà. Donc à voir hein, comment ça va se passer. Mais attention, attention. C'est pas aussi simple que ça. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de communication officielle de banque, j'ai envie de vous dire, sur le fait qu'ils vont laisser tomber Apple Pay. Mais ça ne serait pas étonnant finalement qu'ils aient un accord avec cette application qui fait que les frais de paiement, d'ajout de carte, etc. soient moins importants. Et donc, très logiquement, les banques seraient tentées de laisser tomber Apple Pay à la faveur de Wero. Et donc, ça forcerait les consommateurs à ne plus pouvoir utiliser Apple Pay à la fin. Ce qui obligerait Apple à revoir sa formule. Ouais. Le souci, c'est qu'il y a quand même toujours un... Enfin, dites-moi si je me trompe, hein. Mais pour moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même toujours un coût de développement à supporter un standard ou un autre, etc. Et qu'il ne suffirait pas juste pour Apple d'aligner les prix, finalement, par rapport à un compétiteur européen. C'est que finalement, il faudrait justifier pour cette application, ou en tout cas les banques, de devoir supporter l'intégration d'Apple Pay en plus de Wero. Bref. Je regarde un petit peu vos commentaires. Euh, Finalement, j'ai un peu l'impression que l'UE pète ma cage dorée Apple et j'ai peur que la confidentialité et la sécurité Apple en pâtissent et ce soi-disant pour le confort du consommateur. Je suis pas certaine qu'il y ait une notion de... Pour le coup, moi, personnellement, je suis pas hyper stressée sur l'aspect sécurité parce qu'on parle quand même de données bancaires et donc c'est des données sensibles. Donc je me dis que de toute façon, les services alternatifs devront respecter aussi les règles européennes ici en termes de gestion des données et de sécurité. Mais il va falloir qu'ils se donnent les moyens d'eux. Voilà, c'est plutôt ça finalement. Peut-être le point d'interrogation. Je regarde un peu vos commentaires. Les frais de carte sont plutôt du côté opérateur, Mastercard, Visa, etc. Non. Bah, il y a à la fois des frais. Je ne suis pas une experte en du sujet, hein, mais de ce que j'avais regardé, il y a quand même des frais Mastercard et Visa lors des transactions. Puisque c'est eux qui permettent ce système de paiement. Et puis, il y a également les frais qu'Apple Pay prend sur lorsque vous ajoutez une carte dans Apple Pay et à chaque transaction, il me semble aussi. Parce que voilà, on bénéficie d'un service de facilitation de paiement. Au lieu de payer avec sa carte physique. Donc à voir. Pour moi, le point d'interrogation, mais je comprends ce que vous me dites hein, dans la chatroom Wendigo, où tu me dis c'est pas parce qu'il y a de la compétition que Google Pay n'est pas utilisé. Pour moi, c'est vraiment une question de comment les banques vont réagir. Vraiment, c'est ça. Et on ne le sait pas. Hein. Je suis d'accord avec vous, on ne le sait pas aujourd'hui. Donc pour moi, ça ne sert à rien de crier au loup, etc. On ne sait pas comment les banques françaises vont réagir par rapport à Apple Pay et l'ouverture de la puce NFC et cette nouvelle application européenne. Jusqu'à quel point ils vont vouloir la pousser? Est-ce qu'ils vont arrêter de supporter Apple Pay ou pas? On ne sait pas pour l'instant. Pour moi, c'est vraiment ça l'interrogation. Et c'est vrai que s'ils décident de potentiellement pas supporter, plus supporter Apple Pay, la logique, on pourrait se poser la question également sur Google Pay, Play ou Google Pay, pardon. Parce qu'en fait, on est un peu dans le même modèle ici, dans le même point d'interrogation. À voir, à voir. Je suis en train de regarder les banques compatibles avec Google Pay. Il y a 10 banques à tout casser et que des néobanques, pas les miennes. À voir. Bah écoutez, on vous tiendra au courant en tout cas de l'évolution de ce sujet hein, pour les méthodes de paiement. Voilà, en tout cas, il y aura plus de compétition. Ça risque potentiellement bénéficier le consommateur dans la baisse des prix, des commissions, etc. Et donc ça, c'est positif. Ça va nécessairement impacter l'expérience. Mais ça ne serait pas la première fois. Et finalement, dans certains cas, ça se passe plutôt de manière fluide quand même. Voilà, de pouvoir choisir son navigateur par défaut, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Donc voilà, à voir. Maintenant, comment vont réagir les banques et comment cette application va être déployée, etc. par rapport à Apple Pay, ça serait intéressant. Voilà. Comment s'appelle l'alternative de l'UE? Alors, bah, l'application sur laquelle ils sont en train de travailler, ça serait Wero, Wero. Et ça, c'est dans le cadre de l'EPI. L'EPI, c'est donc une initiative hein, portée par une quinzaine de banques, dont les grands acteurs français. Et c'est le European Payment Initiative. Donc, il y a quelque chose où, en Europe, ils veulent harmoniser finalement la méthode de paiement. Voilà. Voilà en tout cas en ce qui concerne Apple. Je vous propose de passer rapidement. Je n'aurai pas le temps de faire le dernier article. On a passé pas mal de temps, mais c'était intéressant. Je vous propose de passer rapidement du côté de Meta et plus précisément Instagram. C'est vraiment une petite brève, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous le dire pour ceux qui utilisent Instagram et notamment les messages privés. Ils ont annoncé que ils donnaient la possibilité aux utilisateurs de pouvoir modifier leurs messages privés jusqu'à 15 minutes après les avoir envoyés. Donc ça, voilà, vous pourrez faire des petites corrections. Ça sera facile. Donc pour éditer un message, vous aurez simplement à appuyer sur le message longtemps et à choisir éditer depuis le petit menu qui va s'afficher. Et lorsque vous aurez édité le message, il y aura un petit texte violet qui s'affichera au-dessus pour informer que le message a été modifié. Donc ça, c'est les bonnes pratiques maintenant qui sont assez rentrées dans les usages hein, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc c'est assez similaire à iMessage, notamment chez Apple et tout. Et puis, vous aurez également la possibilité de pin, donc de garder les threads de messages toujours affichés en haut de votre boîte de réception Instagram, ce qui va vous permettre de facilement accéder à vos interlocuteurs favoris ou à vos fils de discussion favoris, tout simplement. Donc là aussi, ça se passera via un swipe latéral sur un fil de discussion. Dans votre liste de fils de discussion, hop, je peux vous montrer rapidement. Voilà, donc ça ressemble à ça. Hop, donc vous pouvez voir ici la différence avec un fil pin. Vous avez la petite épingle à côté de l'interlocuteur qui montre que votre discussion est attachée en haut. Et en fait, vous pouvez le faire en swipant latéralement. Vous avez l'option pin qui est disponible, tout simplement. Voilà, donc comme ça, vous savez un petit peu comment ça se passe. Donc ça va arriver avec les nouvelles mises à jour, hein. Très, très simplement. Et on continue. Attendez, je regarde un petit peu. C'est épinglé, oui. Pin, c'est épinglé. Oui, c'est assez classique hein, dans les standards de WhatsApp, pas que, hein, des applications d'email pour la fonctionnalité d'épingler. Voilà. Y a pas, maintenant, c'est assez rentré dans les usages. Hein, donc, ce n'est pas très, très étonnant. Voilà, je vous propose de continuer encore chez Meta, mais cette fois-ci, on va parler de Threads. Threads, le réseau social qui tend à concurrencer Twitter X, voilà, qui informe que à partir de juin, ils rendront accessible leur API à tous, à la communauté des développeurs. Et donc ça, c'est un ingénieur, Jesse Jen, qui a posté justement, qui a posté sur le sujet et que la société était en train de développer l'API depuis plusieurs mois et qu'aujourd'hui, l'API autorisait les utilisateurs à s'authentifier, publier des fils de discussion, enfin des threads, des messages sur la plateforme et de récupérer du contenu qu'ils ont posté à travers ces outils. Donc voilà, donc la société est en train de travailler en fait avec un nombre limité de partenaires ici, notamment des outils sociaux comme Sprinklr, Sprout Social, Social News Desk et Hootsuite qui sont connus, et Tech News Board et TechMeme et quelques autres développeurs. Justement pour travailler sur cette API et pour la rendre disponible. Ils sont en train d'explorer la possibilité d'ajouter d'autres capacités justement à cette API, notamment sur les enjeux de modération et de récupération d'insight, donc de data et comment traduire ça ? D'informations sur potentiellement des comportements utilisateurs, etc., qui va vous permettre un meilleur usage, notamment à quel moment de la journée il vaut mieux poster ou quand est-ce que les gens réagissent mieux ou voient plus vos posts, etc. Donc tout ça, c'est des informations qui vont permettre de mieux utiliser les outils. Donc voilà, donc c'est plutôt encourageant, mais le point d'interrogation ici, c'est est-ce que la communauté des développeurs va être très intéressée ou rassurée de devoir compter sur une énième API qui est contrôlée par Meta et qui, à n'importe quel moment, pourrait stopper l'accès à l'API. Enfin, je veux dire, ce ne serait pas la première fois que ça se passe. La communauté des développeurs a été un peu échaudée ces dernières années avec des accès d'API qui se sont arrêtés du jour au lendemain et où tout leur business s'effondrait finalement du jour au lendemain. La dernière en date était un peu X, notamment, qui avait fait ça et qui a carrément tué des business. Hein, parce que fonder ton business sur l'accès d'une API qui est contrôlée par un business tiers, bah, évidemment, c'est te mettre à la merci finalement de cette société. Donc, est-ce que finalement la communauté des développeurs va prendre et se lancer sur cet accès API? À voir, à voir. D'un autre côté, c'est vrai que ça pourrait aussi démocratiser l'utilisation de Threads auprès du grand public, mais à voir. C'est vrai que les applications, les réseaux sociaux décentralisés du type Bluesky et Mastodon ont autorisé les développeurs à créer des nouvelles applications. C'est pas sûr que l'API de Threads autorise autant ici. Et surtout, ils n'ont pas la taille et l'impact comme X ou Twitter ici, ou même Meta, avec la force de frappe de Facebook, Instagram et WhatsApp derrière. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais voilà, moi j'anticipe que la communauté des développeurs peut être un peu frileuse à l'idée de dire qu'ils vont dépendre encore d'une énième API, quoi. À voir, à voir. Donc à voir. S'il y a des développeurs dans la chatroom, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion sur le sujet. Mais voilà. En attendant, on vient de parler de Threads. Bah, évidemment, on va parler de son concurrent. Et son concurrent, c'est évidemment X, Twitter. Bah, j'avoue que j'ai du mal à me faire à X, donc je précise toujours que je parle de Twitter. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que jusqu'ici, les appels vidéo ou appels audio étaient réservés uniquement aux abonnés payants depuis son lancement en octobre dernier. Voilà, donc on parle vraiment de l'appel vidéo en simple audio. Et dès cette semaine, finalement, l'option devient accessible à tous les membres. Voilà, donc après une version sur iOS pour les iPhones, cette nouveauté annoncée depuis fin août 2023 est active depuis quelques jours aussi sur Android et elle s'inscrit un peu dans la logique d'Elon Musk finalement de transformer X non plus en juste place publique mais en carrément une super app, une super plateforme tout en un capable de concurrencer les géants chinois du type WeChat et Weibo. Alors ça, cette volonté, elle court depuis pas mal d'années. Dans la sphère tech. C'est vrai qu'on voit ce comportement et ce succès en Chine de ce qu'on appelle des super apps qui vous permettent de faire tout et n'importe quoi depuis une même app. Et donc vraiment, WeChat, Weibo, c'est un peu ça. Vous pouvez commander, acheter, échanger et communiquer avec vos proches ou avec des commerces, etc. Enfin, faire tout ça depuis une même app. Et donc, du coup, ce qui rend cette app vraiment super puissante, Apple avait un peu essayé ça avec des espèces de petits add-ons dans iMessage quand ils avaient lancé ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont vite laissé tomber ça, finalement. On n'a plus ce type d'add-on et on n'a jamais vu, finalement, la popularité arriver. Et donc, du coup, ce n'est pas très étonnant que Elon Musk, avec X, essaye aussi de démocratiser ça. Est-ce que ça va réussir à voir? En tout cas, jusqu'ici, ça n'a pas pris. Voilà. À voir. Je serais assez intéressée de voir si finalement ça va prendre ou pas. Et c'est pas étonnant que du coup, s'ils veulent mettre l'accent sur devenir une super app, bah, rendre ces fonctionnalités accessibles à tous, finalement, c'est la meilleure manière de le faire. Si tu limites que aux abonnés payants, bah, finalement... ça reste assez anecdotique quand on sait le nombre de personnes qui payent finalement pour l'abonnement premium sur X Twitter, quoi. Donc à voir. Voilà, donc dès janvier dernier, finalement, Elon Musk avait déjà ouvert la porte à la généralisation de ce service en estimant que tout le monde pourrait y avoir accédé, qu'on serait sûr de la robustesse du service. C'était aussi une bonne manière de lancer finalement ces fonctionnalités, de dire qu'elles allaient être restreintes dans un premier temps aux abonnés premium qui étaient moins nombreux. Et puis une fois qu'il y avait un succès, bah, ou que ça fonctionnait, eh ben, on allait la sortir à une plus large échelle et donc tous les utilisateurs. Le test est concluant et donc du coup, maintenant, il le laisse un petit peu à tous les utilisateurs. La question qui se pose maintenant, c'est les conditions de sécurité et de vie privée qui sont garanties ou pas par la plateforme. Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de passer des appels vidéo ou audio via Twitter X ? Quand on regarde à la réputation du réseau social ou de son CEO, je sais pas. Moi, non. Et pourtant, je le fais avec WhatsApp, quoi. Et j'ai pas une confiance incroyable dans Facebook ou Meta, quoi. Mais voilà. Donc à voir. Donc, à savoir, en tout cas, petit détail pour savoir comment se passe l'expérience. Pour pouvoir passer un coup de fil à un autre utilisateur, mais il faudra quand même au préalable avoir échangé des messages directs sur X, donc un certain degré de familiarité avec la personne et d'échange déjà en place. Autre mesure de protection qui a été mise en place par X, Twitter, c'est la possibilité pour tous les comptes de contrôler la provenance des appels et de bloquer certains contacts indésirables. Certains utilisateurs pourront même carrément supprimer la fonctionnalité via les paramètres des messages directs sur X en décochant tout simplement l'option. Donc il y a une sécurité qui est maximale autorisée, mais elle n'est pas évidemment mise, elle n'est pas activée par défaut. Autre inquiétude aussi, et ça c'est intéressant de le garder en tête, c'est que un appel via un réseau social peut impliquer aussi un faux profil et une usurpation d'identité. Pour être victime d'usurpation d'identité, autant vous dire que je ne suis pas sortie du cauchemar et que maintenant je me méfie de tout et de toute communication qui m'est envoyée. Les hackers donc, pourraient se faire passer pour d'autres interlocuteurs afin d'établir un lien de confiance. Et là où c'est vrai que ça peut poser un problème, c'est que autant on est un peu familier avec les tentatives d'arnaque via email, on est encore assez vulnérable sur les tentatives d'arnaque via audio et vidéo. Donc c'est vrai que y a ça aussi, ce risque qui peut, en utilisant le deepfake, entre autres, en effet. Donc, il y a ce risque qui pourrait augmenter. À voir ce qui se passera. Je termine avec les deux derniers articles, s'ils veulent bien charger. Ce qui n'a pas l'air gagné. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Je me demande si j'ai encore internet. Bah oui, parce que ça a l'air de streamer. Ah, attendez, je vais essayer de... Ah voilà, c'est revenu. Voilà, donc j'ai mon article, mais évidemment plus mes notes. Ok, c'est pas très grave, on va improviser. J'enchaîne avec encore Twitter, mais plus précisément Elon Musk. Et cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe du côté de l'ancienne direction de Twitter. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, 4 des anciens dirigeants de Twitter portent plainte contre Elon Musk. C'est notamment Parag Agrawal, l'ancien CEO de Twitter, mais également Ned Segal, CFO, Vijaya Gadde, juridique, et Sean Edgett, l'avocat général, qui attaque Elon Musk, qui attaque Elon Musk. Il réclame notamment 128 millions de dollars. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement parce que dans leur contrat, il y avait une clause en cas de sortie de bourse pour bénéficier d'une indemnité. Et Elon Musk a certes bel et bien racheté l'intégralité des parts de l'entreprise pour 44 milliards de dollars, mais ne leur a rien versé. Et donc, du coup, c'est pour ça que les 4 dirigeants ont déposé plainte dans l'espoir de récupérer cet argent qui correspond à un an de salaire et des actions acquises. L'ancienne équipe, en fait, les 4 personnes qui portent plainte indiquent avoir été licenciées abusivement, sans compensation financière. Et c'est vrai que Elon Musk s'était un peu vanté d'avoir économisé 200 millions de dollars en agissant ainsi, tout en insistant sur son hostilité aussi à l'égard de l'ancienne direction de Twitter à l'époque. Et on a notamment le document de la plainte qui raconte un peu les coulisses du rachat. À 16h12, heure du Pacifique, une fois la confirmation que l'argent avait été transféré reçu, Musk a donné l'ordre de conclure l'accord. À cet instant précis, son assistant a remis les lettres de licenciement au CEO et ses trois principaux officiers. 6 minutes plus tard, le responsable de la sécurité de Elon Musk est descendu dans la salle de conférence du deuxième étage pour dire que tous avaient été sortis du bâtiment et leur accès aux emails coupé. Objectif d'Elon Musk ici, empêcher de démissionner et d'activer leur clause en terminant leur contrat immédiatement. Voilà, donc il faut rappeler hein, le contexte vraiment houleux du rachat de Twitter. Pendant des mois, Elon Musk s'était amusé à moquer la direction de Twitter et notamment la valorisation de Twitter à l'époque en disant que de toute façon, la majorité des comptes étaient des bots, etc. et a menacé de ne pas racheter l'entreprise finalement afin de faire baisser sa valeur. Ce qui avait énormément influencé la valeur de la boîte, etc., pour avoir un prix plus bas. Twitter avait attaqué Elon Musk en justice pour le contraindre à aller jusqu'au bout de l'opération de rachat, ce qui avait fini par finalement forcer la main à Elon Musk à aller au bout de l'opération. Ça a donné un peu l'impression qu'il a racheté Twitter contraint et forcé. Et donc du coup, on se retrouve dans un nouvel épisode de la saga ici d'Elon Musk. La plainte ici, elle met vraiment en lumière la pratique ici de ce qui s'est passé, c'est-à-dire du point de vue d'Elon Musk, ses 4 employés ont été virés, remerciés pour négligence, donc grosse négligence et mauvaise conduite. De la société, etc. Notamment, il y avait des exemples comme quoi ils avaient signé des bonus de ce qu'on appelle rétention pour garder certains employés, des centaines qui, de toute façon, ont été virés une fois le rachat. Donc, en effet, Twitter, il y a aussi des questions de gestion de Twitter. Twitter était quand même dans une situation financière pas bonne ici, et ils avaient signé des bonus pour garder certains employés, alors que c'était pas forcément la meilleure chose à faire, que finalement la meilleure chose à faire était de réduire largement la voilure de Twitter pour redevenir agile, shipper relativement rapidement pour ensuite avancer plus vite, se perfectionner, atteindre, du coup avoir moins de coûts puisque moins de salaire à payer, et du coup d'atteindre plus facilement peut-être un équilibre financier pour Twitter, ce qui n'était vraiment pas le cas. Donc en gros, voilà, il y a d'un autre côté Elon Musk qui pointe du doigt la mauvaise gestion de ces 4 personnes à l'encontre de Twitter, et enfin, il y a eu beaucoup d'affaires où on a vu que Twitter était mal géré, hein, qu'il dépensait trop d'argent, qu'il rémunérait trop avec des conditions trop exagéré, même comparé à d'autres géants tech. Donc, il n'y a pas juste le fait de ne pas vouloir payer. Et de l'autre côté, en effet, les méthodes plus que cavalières d'Elon Musk, qui, quand il voit une ouverture pour ne pas payer, il a l'air de la prendre quand même. À voir. En tout cas, ce qu'on sait, il y a quand même des pratiques très, très limites que moi, je ne pourrais pas... je ne peux pas être en accord, hein, notamment des employés qui ont été remerciés, mais qui n'ont pas eu de compensation dans les conditions de remerciement des salariés, notamment 20 personnes qui travaillaient pour la société au Ghana à l'époque du rachat, qui s'était déroulé donc il y a 16 mois, et qui ont juste touché en ce mois de février, finalement, l'argent qui leur était dû. Et donc, imaginez quand même des personnes où pendant 16 mois, elles n'ont pas eu finalement l'argent qui leur était dû. Ça les met dans des conditions financières potentiellement extrêmement précaires. Et donc, voilà, là, c'est des pratiques qui ne sont pas acceptables et que l'on ne devrait pas accepter. Donc, rien que le délai de paiement, pour moi, il devrait être sanctionné de la part de la société, parce qu'une société peut-être peut se permettre de ne pas payer en temps et en heure, mais les personnes derrière, il y a des vrais humains, des vraies personnes qui vivent et qui essayent de subvenir à leurs besoins. Voilà, donc ça, c'est pas normal. Après, il y a aussi la mauvaise gestion qu'il faut reconnaître du côté de Twitter. Et donc, du coup, les personnes qui étaient en place pour gérer doivent répondre aussi de leurs actes. Donc, à voir, c'est pas tout blanc, tout noir. À voir finalement ce que la plainte va donner. Il n'y a pas eu de déclaration depuis de Elon Musk ou de Twitter X. On verra ce que ça donne. Donc à voir en tout cas pour cette plainte déposée par les quatre des anciens dirigeants de Twitter. Je ne vais pas faire le dernier article parce qu'il est déjà 9h24. Je vous encourage à le lire. Il est plutôt, c'est une réflexion sur un nouveau type d'application et de contenu qui fait fureur en Chine et qui pourrait être la prochaine chose que la Chine exporte vers les États-Unis, etc. Et je trouvais ça assez intéressant, qui est un peu un pari sur un espèce de format de soap opéra très très court, mais en centaines d'épisodes, découpé en centaines d'épisodes. Et donc, la narration et découpé et pensé pour convenir à ce type de format, et je trouvais ça assez intéressant. Donc je vous le laisse lire, il est dans le Flipboard de Naotech. Moi, en tout cas, j'étais ravie de vous suivre ce matin. Je vais vous souhaiter carrément une excellente journée et une excellente semaine. Pour rappel, il n'y aura pas de mug ni de jeudi contributeur la semaine prochaine. Cette semaine, aucun changement. Vous pourrez retrouver Jérôme dès jeudi et vendredi pour le mug et le jeudi contributeur ce jeudi aussi. Mais la semaine prochaine, sachez qu'on sera en vacances, donc on prend une petite pause de printemps pour recharger nos batteries et revenir encore plus en forme la semaine d'après. Avant de se quitter, on va regarder un petit peu vers qui on peut faire un raid. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me laisser décontenancer par la nouvelle interface de Twitch. Oui, mais alors attends, moi je veux bien, mais s'il me change les réglages que je fais, on ne va pas s'en sortir. J'ai cliqué suivi, donc garde ce que je suis. Et on va rediriger vers Flonflon. Comme ça, on va aller... En plus, il y aura un petit suivi avec les sujets qu'on a abordés ce matin, donc c'est parfait. C'est parfait. Apple Music qui se prend une amende. Donc voilà, on fait le lien parfait avec Flonflon ce matin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous retrouve dans 2 semaines. Bye bye!